Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. La plagiocéphalie ou syndrome de la tête plate touche environ plus de 200 000 bébés par an aux États-Unis. Ce fut le cas d'Emma, la petite fille de Jen qu'on reçoit aujourd'hui. Jen nous raconte avec beaucoup de douceur son parcours du combattant pour essayer de rectifier le petit crâne de sa fille. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Jen!
Salut Cindy!
Écoute, je te remercie de vouloir témoigner sur le podcast. Bah écoute, je vais te proposer de démarrer en te présentant, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Ok, alors je m'appelle Jen, j'ai 32 ans, j'habite à New York et ma famille est composée de mon chéri Wade, de ma fille Emma qui a 15 mois et voilà, c'est notre petite famille.
Depuis combien de temps que tu es expatriée ?
Alors, à New York, ça fait plus de 7 ans que j'y suis. Et avant New York, j'étais à Londres pendant 5 ans pour faire mes études supérieures.
Alors, qu'est-ce qui t'a poussée à aller à Londres ?
Londres, c'était un choix sans en être un. En fait, j'ai eu une première expérience après mon bac à New York que j'ai adoré. J'ai vécu 3 mois à New York. Puis quand je suis rentrée pendant les fêtes de fin d'année... On a appris que ma mère était assez malade, donc j'ai décidé de rester en France et pour être proche d'elle. Ça va beaucoup mieux, donc tout va très bien, Dieu merci. Mais donc voilà, le choix de retourner à New York était très compliqué après la maladie de ma mère, donc j'ai décidé de partir, mais beaucoup plus proche de la France. Donc je suis allée à Londres avec l'Eurostar, c'est super facile, 2h30, j'étais à Paris, donc voilà, c'est un peu fait comme ça. Et sinon, voilà, après mes études, je me suis dit, j'avais toujours en tête de retourner à New York parce que mon expérience avait été tellement incroyable la première fois que je voulais revivre ça.
Et tu m'expliquais aussi en off que ton papa était américain ?
C'est ça. Donc New York, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Ouais. C'est mon père est né à New York. Quand il avait 35 ans, il me semble, il a décidé de faire un grand voyage autour du monde. Et puis, il s'est arrêté en France pendant quelques mois. Il prenait des cours de français et il a rencontré ma mère. Donc, il n'est jamais reparti. Donc là, ça fait, je sais pas, plus de 40 ans qu'il est en France, je crois. Il est plus français qu'américain. Et quand il est aux États-Unis maintenant, il parle avec un accent français. Donc, c'est assez
il
drôle.
Il s'est passé pour un français. C'est marrant.
Il pourrait, vraiment.
Et ta mère, donc, du coup, elle est française ?
Ma mère est française. Elle est née à Genève, d'accord. Par contre. Elle est née en Suisse, mais ils ont emménagé en France, je sais pas, quand elle avait 3 ans. Donc, elle a vécu toute sa vie, le reste de sa vie en France. Oui. Et moi, donc, je suis française parce que je suis née en France. J'ai grandi en France, américaine par mon père et suisse par ma mère. Donc, j'ai les 3 passeports. Oh. Je suis assez chanceuse à ce niveau.
Waouh ! Comment ils appellent ça ? Une citoyenne du monde ?
C'est ça.
Comment t'en es venue à rencontrer ton conjoint ?
Je l'ai rencontré sur Tinder. ouais, à New York, c'est comme ça.
Ouais, non, les gens n'ont pas le temps de rencontrer personne. Donc, t'es toujours le plan B de quelqu'un
ouais,
à New York.
Ouais, exactement. Tout à fait. Il faut être efficace, pas de temps à c'est perdre. Clair. Hop, hop. Donc, voilà. Enfin, moi, j'étais célibataire depuis quelques années à New York. Je le vivais très bien, mais j'avais aussi en tête de m'installer dans une relation plus sérieuse pour fonder une famille. Et donc, voilà, comme par hasard, un jour, j'ai matché avec Waïd et lui est français de Lyon.
D'accord.
Mais on a tous les deux matché quand on était aux États-Unis. Donc lui habite aux États-Unis. Enfin, quand on s'est rencontrés, il était à New York depuis
d'accord.
un an. Et donc voilà, on a bien parlé par chat pendant, je sais pas, 3 semaines. Je me souviens, j'ai pris des captures d'écran de tous nos échanges parce que je voulais les garder précieusement, oh. Donc je les relis de temps en temps. ouais, et puis...
Donc comment vous êtes rencontrés alors la première fois ?
Bah voilà, on avait tous les deux des schedules un peu chargés quand on était aux États-Unis, donc on a pas réussi à se voir pendant 3 semaines, mais on parlait tous les jours, et puis en fait, les fêtes de fin d'année sont arrivées. Et on rentrait tous les deux en France pour passer Noël et Nouvel An en famille. Et voilà, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux à Paris le 2 janvier, et donc le lendemain du Nouvel An. Et,
ouais, comment bien démarrer l'année, quoi.
C'est ça, ouais. Je me suis dit, allez, vas-y, on se motive.
Pourquoi
hop,
pas.
Une date le 2 janvier, c'est parti.
J'ai pas le temps.
Et c'est ça, exactement.
J'ai attaqué l'année.
Voilà, on attaque. et on a passé un super moment. On était dans un petit bar à Paris, à côté de Montmartre. Voilà, on est rentré main dans la main et puis on s'est revus une semaine après, mais à New York cette fois. Et puis, ouais, the rest is history, comme on dit.
Et donc, j'imagine que vous voyez la suite à New York. Est-ce que vous avez des projets ensemble de retourner en France, de rester à New York ou de voyager, d'aller dans une autre ville? Comment vous voyez le reste?
Pour Waïd, c'était important de rester à New York, d'accord, vraiment, parce que lui, donc, il venait d'arriver, ça faisait un an. Quand on arrive à New York, ouais, un an, c'est pas suffisant. Enfin, il faut, voilà, on repart pas tout de suite. Il y a tellement de choses à découvrir, d'expériences à vivre, et puis il faut s'installer aussi. Il faut se faire vraiment son petit nid, voilà, démarrer le travail, se faire ses amis. Partir au bout d'un an, ça faisait pas de sens. Et puis moi, ça faisait déjà quelques années que j'y étais, donc j'ai mon frère aussi qui est à New York, donc
un pied à terre,
j'ai aussi de la famille ici. Ouais, j'ai un pied à terre, j'étais bien installée, un bon boulot, donc je comptais pas rentrer tout de suite en France. Et puis surtout avec cette nouvelle rencontre,
c'est
évident que j'avais envie de exactement.
Après combien de temps Emma arrive dans vos vies?
Rapidement, très rapidement cette petite.
Mais vous perdez pas de temps, c'est ça qui est bien en fait. C'est genre,
On perd pas de temps du tout, on enchaîne. Je crois qu'on a besoin de vivre des émotions fortes tous les ans, donc c'est ce qu'on a fait depuis le début. Je suis tombée enceinte, je sais pas, on s'est rencontrés en janvier 2017, je suis tombée enceinte en juin 2018. Donc
c'était un bébé surprise, une bonne surprise, une excellente surprise.
Bébé surprise, ouais. Excellente surprise. Ça nous a pas du tout fait peur. Enfin, du coup, je suis pas tombée enceinte en me disant, oh mon Dieu, est-ce que c'est bon? Je savais que j'avais déjà le bon partenaire pour faire pour se lancer dans cette aventure. C'était quand même assez incroyable parce que, voilà.
Alors, comment s'est passée ta grossesse? Commençons par un premier trimestre. Comment ça s'est passé?
Bien, écoute, premier trimestre, j'ai pas du tout été malade, nausée, ni rien. J'étais excitée comme une puce. Enfin, je sais pas, j'étais trop ravie de vivre cette expérience de femme, quand même. C'est une transformation.
Tu voyages, du coup, pendant cette grossesse?
Je suis allée, je crois que je suis allée en Guadeloupe. Je suis allée deux fois en France. Beaucoup de voyages.
Ouais.
Et puis,
à côté.
Mais ça se passait très bien, au contraire. Enfin, moi, j'étais vraiment épanouie dans ma grossesse et j'étais pas fatiguée ni rien, donc c'était
trop bien.
Ça faisait bien. On a fait un grand voyage avec Waïd aussi. On est parti en Indonésie pour le mariage d'un ami à Jakarta.
C'est super loin. T'étais à combien de mois de grossesse?
Attends, j'étais à combien? Je devais approcher les 3 mois.
Ok.
À cette période. Ouais. Donc on est en voyage, on fait un détour à Hong Kong, on passe aussi quelques jours à Bali tous les deux en amoureux. C'est lors de ce voyage où on apprend qu'on attend une petite fille, donc super heureux, on se réveille parce qu'on était en décalage horaire pas possible. Donc à 4h du matin, moi je checkais, je faisais refresh mes emails toutes les 2 secondes pour savoir si on avait enfin la nouvelle du sexe du bébé. Et donc on a appris que c'était une fille, donc ça c'était la joie totale.
Donc tu finis ton séjour, donc tu rentres et tu l'annonces à ton employeur que tu es enceinte?
Ah oui, je l'annonce à mon employeur. je dis ça parce que j'ai tellement stressé. J'étais très proche de ma boss à l'époque et donc j'ai dit, ce serait bien qu'on se réserve un temps pour parler un petit peu. Elle m'a dit ok, mais tu peux pas me dire de quoi il s'agit? Et j'étais non.
Et du donc, coup, elle devait stresser, genre
exactement.
À main, ça va partir.
Exactement, ouais. Ils ont cru que j'allais poser ma démission. C'était pas du tout le cas. Et au final, j'ai annoncé la bonne nouvelle et tout le monde était soulagé. Et donc voilà, tout le monde a bien accueilli la nouvelle. Et
donc bienveillant,
Très bienveillant, ouais.
C'est super, c'est vraiment super. Comment se passe le deuxième et troisième trimestre?
Ça s'est bien passé, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de... Enfin, qu'il y avait un suivi très rapproché quand même. Enfin, quand j'en parle à mes amis en France... En France, je crois que c'était une écho tous les 3 mois.
Oui.
Moi, j'en avais vraiment tous les mois. Ça, c'était des rendez-vous parfois de 3 minutes.
Mais oui. Vraiment. Oui, ils prennent ta tension, ils te demandent de faire pipi dans un verre et ils te disent à la semaine prochaine, quoi.
Exactement. Et donc, c'est quand même quelque chose d'aller en rendez-vous. Il faut prendre du temps sur son temps de travail, il faut se déplacer, il faut... Et donc, parfois, j'étais un petit peu frustrée, voilà.
Donc, trop médicalisé, tu trouves? Le suivi.
Moi, j'ai trouvé un petit peu trop, oui. Après, je suis pas experte, donc je, moi, je me disais à l'époque, je veux que ma fille aille bien. Ouais, je veux m'assurer que tout se passe bien. Et puis, j'étais aussi ravie de la voir tous les mois sur, à l'écho.
On arrive au jour J. Jen, comment tu sais que tu es en train d'accoucher? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Quel est l'instant T?
Oui, bah, il n'y en a pas vraiment eu d'instant T parce que Emma, elle est restée tranquillement au chaud dans mon ventre pendant 12 jours après la date qui était prévue pour mon accouchement.
Oh, 2 jours supplémentaires. Oh la pauvre.
Et en plus, tout le monde te dit mais profite, repose-toi, regarde des films. Mais toi, t'as qu'une seule envie, c'est de rencontrer ton bébé.
Ah non, moi, je trouve le pire, c'est les gens qui, tous les jours, t'envoient un message. Alors, bah alors si je t'ai pas envoyé dans le message, c'est que c'est pas encore arrivé. Alors tu vas arrêter de m'envoyer des messages.
Attends, la meilleure c'est, mais fais le ménage, il va arriver plus vite. Mais j'ai que ça à faire de faire le ménage, de mettre à quatre pattes et d'astiquer. Non mais attends, j'ai 14 kilos de plus.
Non là je suis d'accord parce que pour la petite histoire, je me rappelle le jour où j'ai eu des contractions, donc j'ai eu des contractions pendant toute la journée, je me suis dit, bah on va accélérer le truc, je vais passer l'aspirateur. Parce que je me disais, bah je vais avoir du monde à la maison. J'ai envie que l'appart soit clean, je veux dire.
Ouais.
Donc, ils ont dû te déclencher, j'imagine.
Ouais, on a dû me déclencher. Mon obstétricien ne voulait pas dépasser les 12 jours après la date.
Ça paraît quand même très tôt. Hein. Parce que, enfin, aux US, on a une semaine de moins par rapport à en France de gestation. Mm-hmm. Donc, au final, tu avais 2 jours de plus par rapport à en France, quoi. Donc,
Ouais, moi je me sentais bien. Enfin, j'avais très envie de la rencontrer, donc c'était rassurant de se dire que voilà, après ce jour-là, c'est sûr que l'accouchement va se dérouler. Mais j'étais bien, je me sentais bien. Elle apparemment avait assez de liquide amniotique pour être bien aussi. Et il m'avait calculé son poids à 3,1 kg, je crois.
D'accord.
Donc un bébé complètement dans la norme. Mais il voulait pas qu'elle prenne trop de poids. Enfin, il y a toute cette histoire, en fait. Si tu laisses tarder les choses, il peut y avoir des risques ou autre.
D'accord.
Et donc, voilà. Donc, il m'a fait venir ce jour J. Donc, il avait été prédéfini. Et il m'a fait un décollement des membranes pour essayer de faire, que le process se déclenche naturellement.
Apparemment, c'est pas le truc le plus agréable du monde.
Non, et puis on ne prépare pas trop, et puis ça a été fait un petit peu... Enfin, moi, j'en ai gardé pas un bon souvenir, parce qu'on m'a un peu dit... ça fait quand même... C'est pas très agréable. Et puis, on a peur. Enfin, il faut pas se leurrer. Il y a quand même une partie de... voilà. On sait qu'on va accoucher, ça fait peur. Et on m'a un peu dit, ah bah... Enfin, voilà, il faut être un peu plus forte que ça, madame.
Très sympa,
voilà.
Le gars.
Super cool.
Bah écoute, mets-toi à ma place. Écarte les jambes et puis on verra un peu l'effet que ça te fait. Je veux dire, sois courageux, toi.
Exactement. J'ai trouvé ça dingue et je trouvais ça... Aucune finesse, aucune empathie, même si, bon, bah, pour eux, j'imagine que c'est quelque chose qu'ils voient tous les jours. Enfin, voilà, pour eux, c'est un métier. Nous, c'est l'événement majeur d'une vie, donc c'est vraiment pas la même perspective, quoi. Mais puis ça a bien fonctionné parce que j'ai commencé à avoir des contractions... peu de temps après, genre 2-3 heures après, je suis retournée le voir. Il voulait voir si j'avais du liquide amniotique, donc il prend une espèce de tige pour voir si la poche était percée.
D'accord.
Donc ma poche était fissurée, pas vraiment percée, mais donc il m'a dit ok, maintenant tu peux aller à l'hôpital, qui était à une rue, donc on a pu marcher pour aller jusqu'à l'hôpital pour accoucher. Ils me mettent dans une chambre très rapidement. Mes contractions continuent, mais ralentissent un petit peu.
D'accord.
Donc, ils me conseillent de mettre sous...
Oxytocine,
je crois. Oxytocine, ouais. Et là, mon docteur vient vraiment me percer la poche. Donc là, c'est le torrent. Je ne sais pas si c'est arrivé, mais c'est impressionnant. Et de là, donc, les contractions sont vraiment intensifiées. On m'a posé une péridurale juste à temps avant que ça commence à devenir vraiment compliqué.
T'en voulais une? Ils t'ont proposé?
J'en voulais une, ouais. Je me suis dit, je vais pas aller trop vite. Enfin, je vais pas la demander tout de suite si j'arrive à gérer la douleur.
Ouais.
Mais j'étais bien contente quand on me l'a proposé et que l'anesthésiste était bien gentil et était là pour me la poser.
D'accord.
Ouais, il était là, il était super, il m'a soutenue, et puis Voilà, Emma est arrivée assez rapidement parce qu'en fait, mon accouchement, tout, à partir du moment où je suis arrivée à l'hôpital jusqu'au moment où elle est arrivée, il s'est écoulé.
Tout est rapide et efficace chez toi. Hein.
et vraiment 10 minutes où j'ai poussé Emma pour qu'elle puisse sortir, mais c'était, ça s'est fait assez facilement, entre guillemets, oh, je veux dire.
Génial, génial. Donc, Emma arrive. J'imagine qu'ils te la mettent sur la poitrine pour faire du premier pot à pot.
Premier pot à pot, ouais, c'est une expérience incroyable. Tu vois ton petit bébé que tu connais parce que vous côtoyez, vous partagez le même corps depuis 9 mois et en même temps, tu connais pas cette petite tête non plus et vous faites connaissance pour la première fois. Et on reste longtemps tous les trois comme ça dans la chambre pendant... On est resté au moins 2 heures, je crois, juste comme ça en pot à pot... Après, on a eu des petits soucis pour la mettre au sein. Moi, j'avais très envie d'allaiter, mais j'ai pas réussi et la conseillère en lactation n'était pas disponible puisqu'il était tard. Donc, on m'a conseillé de lui donner un petit biberon et.
Mais tu sais, il y a toujours une infirmière qui reste quand même à côté et qui garde un œil sur vous trois. Mm-hmm. Elle a pas essayé de te montrer comment mettre Emma au sein?
Un peu. Mais vraiment pendant, je sais pas, je dirais 30 secondes, quoi. Donc, on décide de donner un petit biberon. Et puis, cette première nuit se passe super. Tout le monde peut se reposer. On dort tous à point fermé. Mm-hmm. Emma dort bien, nous aussi. Et par contre, le deuxième jour, je me sens que c'était pas la même chose. J'avais encore du mal avec l'allaitement. Et elle a passé une deuxième nuit à vraiment pleurer beaucoup. Oh. Et... nous complètement désarmés, enfin moi complètement désarmée, je pense qu'il y avait beaucoup d'hormones aussi là-dedans, à essayer de comprendre ce dont elle avait besoin et trouver les bons gestes. En même temps, on apprend en même temps, donc c'est...
Pourtant, tu avais vu une conseillère en lactation pendant la journée?
Pendant la journée, oui, elle m'avait un peu aidée, mais ça faisait quand même super mal. Et elle me disait, continue à faire ce que tu le fais bien et tout, mais on n'a pas réussi à vraiment trouver. Donc, je continuais à essayer de mettre Emma au sein, mais je savais pas si elle arrivait vraiment à prendre quelque chose. Ouais. Donc, et puis au début, c'est le colostrum aussi. Moi, je savais pas hein, tout ça. Moi, le colostrum, on n'en avait pas parlé. Je savais pas qu'on n'avait pas du lait tout de suite.
Mais... La nuit, il n'y a pas une infirmière que tu peux appeler pour lui expliquer, voilà, j'ai l'impression qu'à la fin, elle pleure, qu'est-ce que je peux faire?
Ah si, j'ai appelé, j'étais en pleurs, j'étais, je comprends pas, j'arrive pas, amenez-moi le tire-lait, c'est moi qui ai demandé à avoir le tire-lait en fait.
Parce Et ils ne l'ont pas proposé le tire-lait?
Ils m'ont dit, à ce stade, c'est pas forcément nécessaire, ça peut même être pas mauvais, mais... Moi, je voulais quand même essayer, je voulais faire tout mon possible pour essayer de la nourrir.
C'est quand même super étonnant parce qu'à la noyau, j'ai eu globalement le même problème avec un démarrage d'allaitement très compliqué parce que Claire avait un frein de langue. Ouais. On s'en est rendu compte une semaine après quand on est allé chez le pédiatre. Mais en fait, à l'hôpital, ils m'ont directement proposé un tire-lait. Ils disent, bon, ben voilà, manifestement, il y a un problème. Ce que je peux vous proposer de faire, c'est que je vous ramène un tire-lait, vous pompez votre lait et vous lui donnez à la seringue. Et c'est comme ça qu'on a démarré l'allaitement, en fait, avec... Et je remercie mille fois la personne qui a inventé un tire-lait, parce que je pense que ça a sauvé mon allaitement, moi. Mais, mais c'est incroyable qu'on ne te propose pas, en tout cas, qu'il n'y ait pas une directive dans chaque hôpital à proposer la même chose à une femme qui souhaite allaiter, en fait.
C'est ça, c'était un petit peu à moi à trouver les solutions. Même pas, je suis la maman, c'est normal, mais j'avais besoin d'avoir quelqu'un à ce moment-là qui me dise voilà ce qui se passe, voilà les options que tu peux avoir, qui sont à ta disposition. Oui. Et j'étais un peu désarmée, ouais, c'est vrai. Mais bon, ça s'est passé, enfin, on a passé cette nuit comme on pouvait, et puis. Et puis après, c'était l'heure de rentrer à la maison. Je suis restée 36 heures à l'hôpital, donc c'est allé très vite.
Alors, comment se passe le retour à la maison tous les trois?
Bah bien, écoute, Emma avait quand même beaucoup de problèmes de digestion comme tous les petits bébés. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. C'est vrai que c'est assez désarmant. Enfin, entendre les cris de son bébé, c'est dur. Hein. Oui. Et quand t'es une nouvelle maman, je pense que moi, j'avais aucune tolérance vraiment à l'entendre pleurer. Je sais qu'on a déjà parlé toutes les deux en off. C'est pareil.
C'est comme entendre un outil de construction extrêmement strident dans tes oreilles et t'es incapable d'attendre, en fait. Tu peux pas. Enfin, après, c'est un ressenti différent pour chaque femme, mais...
J'ai lu récemment qu'apparemment, c'était vraiment quelque chose qui se passait dans notre
cerveau,
où en fait, quand on entend les cris du bébé, on est poussé à agir. Donc, physiquement, on a besoin de se lever, de marcher, de faire quelque chose, parce qu'on est programmé pour répondre aux attentes de nos bébés. Et donc, voilà, donc j'ai appris déjà que c'était complètement normal, qu'on n'était pas folle. Après chaque biberon, elle avait du mal à digérer, donc c'était un peu douloureux de l'avoir en souffrance comme ça, mais j'ai trouvé une position qui arrivait à la calmer.
Ouais.
Mais pareil, encore une fois, j'avais pas l'impression d'être vraiment écoutée. Enfin, je sais pas si toi, ça a fait la même chose, mais quand on vient au rendez-vous chez le pédiatre, il y en a quand même très régulièrement aux premières années de la vie du bébé. Je crois que la première semaine d'Emma, on y allait deux fois déjà. Donc, c'était pour être sûr qu'elle prenait bien du poids,
oui.
Parce qu'elle est née, elle était pas à 3,1 kg, mais à 2,8 kg. Donc, on avait un peu mal estimé. Moi, quand j'en parlais au pédiatre, il me disait c'est normal. Enfin, voilà, j'avais pas vraiment de solution, quoi.
T'as pas eu envie de changer de pédiatre, du coup?
J'ai changé de pédiatre, pas immédiatement, mais aussi, tu vois, tu sais pas, parce que t'as ton instinct maternel, mais t'as aussi les professionnels, le corps médical en face de toi. Donc, toi, tu es parent pour la première fois, donc tu ne sais pas forcément ce qui est normal ou pas. Mais je suis d'accord, je pense qu'il y a vraiment quelque chose et un instinct en nous, et il faut plus se faire confiance et plus s'écouter. Et je remarque en fait que moi, je vis beaucoup mieux ces premiers mois, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à écouter ma fille et pas les conseils de qui que ce soit et pas mes idées préconçues de comment ça devrait se dérouler, en fait. Il n'y a aucune règle. La règle, c'est elle qui l'impose, en fait. Et moi, je suis plus à son service qu'autre chose.
Je pense que c'est important de suivre son instinct pour se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le retour à la maison, un peu compliqué quand même les premières semaines. Ça a duré combien de temps,
ces
coliques?
Longtemps. Oh, longtemps. Franchement, peut-être 4 mois.
Ça paraît long, ouais.
Vraiment, elle pleurait beaucoup. Il y a des fois où je n'arrivais pas à la calmer, à la rassurer. Mais comme je te dis, j'ai trouvé une position où je la portais, en fait. Et elle s'endormait sur moi. Parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à dormir quand elle avait mal au ventre. Et comme tu peux le savoir, un petit bébé, si ça ne dort pas, ça ne va pas bien. Donc... Donc, je la faisais dormir sur moi à partir d'un certain moment, toujours de la même manière, en fait, pour lui apporter une pression et une chaleur qui lui permettaient de s'endormir paisiblement. Et en fait, c'est une position que j'avais toujours recours à la même position parce que ça marchait et puis les pleurs s'arrêtaient. Donc, c'était la position magique. Sauf que ça a commencé à créer, en fait, je vais pas dire déformé, mais un petit peu sa tête. Donc, en la posant toujours du même côté, en fait, ça aplatit ce côté qui était posé contre mon bras. Et donc, chez les rendez-vous, pendant les rendez-vous chez le pédiatre, on me disait souvent, n'oubliez pas de bien changer sa tête de côté quand elle dort, qu'elle ne dort pas toujours du même côté. Et ça, très tôt, en fait, dans les rendez-vous, avant même qu'on puisse voir, je pense, le côté aplati.
D'accord.
Mais on sait, moi j'avais dit que j'arrivais pas en fait à lui tourner la tête d'un côté en particulier, elle se remettait toujours de l'autre côté, donc elle devait être inconfortable en fait, dans une certaine position. Ouais. Mais à ce moment-là, personne ne me dit peut-être aller voir un ostéo ou il y a peut-être quelque chose qui fait qu'elle est plus à l'aise de ce côté-là que de l'autre. Je fais comme je peux, on avance un peu comme ça.
On en est à combien de mois de vie d'Emma déjà?
Là, ce stade, je sais pas, on m'en parle à tous les rendez-vous, mais légèrement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est mentionné, quoi. Donc, c'est pas vraiment un sujet, mais moi, je remarque, en fait, sa tête s'aplatit de plus en plus. Et donc, je viens à chaque rendez-vous avec cette question.
D'accord.
Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on m'explique que c'est temporaire, que Emma va bientôt s'asseoir. Et donc, on aura plus de problèmes parce qu'elle arrivera à se tenir assise et qu'elle passera moins de temps sur sa tête.
Ils t'ont jamais proposé d'aller voir un spécialiste?
Non. Et la pédiatre qu'on voyait au tout début de la vie d'Emma, en fait, était très compétente. Mais je pense qu'elle était aussi... elle prenait un peu l'attitude du tout va bien, ne vous inquiétez pas, très rassurante envers les parents. Faites-lui faire du tummy time. Ouais, mettez-la sur le ventre. Tous les bébés détestent être sur le ventre. Oui. Elle mettait 10 secondes sur le ventre. Moi, je faisais des pirouettes pour la laisser sur le ventre pour la distraire. C'était très compliqué. Et puis, en fait, déjà, quand j'y repense, quand je revois des photos, quand elle était sur le ventre, elle avait déjà la tête qui penchait vraiment que d'un côté. Tu vois, je pense qu'elle était déjà tellement déséquilibrée qu'elle pouvait pas être sur le ventre et être bien sur le ventre. On change de pédiatre.
Donc, elle avait combien de mois quand tu décides de changer de pédiatre?
Peut-être 5 mois.
D'accord. Donc, c'est quand même avancé.
C'est avancé, ouais. Bah, maintenant que je sais que c'est la limite, en fait. C'est un peu, il faut agir un peu avant pour de meilleurs résultats.
Et qu'est-ce que te dit le nouveau pédiatre quand tu vas le voir?
Elle nous dit que là, il faut vraiment faire quelque chose, que si on n'agit pas immédiatement, notre fille risque d'être déformée pour le restant de sa vie et être attaquée à l'école et avoir subir les critiques,
les moqueries,
de ses, les moqueries et autres.
Donc, elle te dirige vers un spécialiste?
Ouais, elle nous dit prenez rendez-vous immédiatement chez le neurosurgeon pour les enfants et nous, on avait un avion pour partir en France 2 jours après. Donc, j'essaye, comme je peux, de réussir à avoir un rendez-vous avant. Mais je n'y arrive pas. Donc, je sais qu'on a encore 2 semaines avant d'avoir un rendez-vous. Mais j'ai réussi à prendre un rendez-vous avec un ostéopathe en France pendant le séjour pour déjà commencer le travail. Et ce rendez-vous s'est mal passé, entre guillemets, je dirais. En tout cas, l'expérience a été très dure parce que lorsqu'il nous a reçus, il nous a dit qu'il n'avait jamais vu un cas aussi sévère de plagiocéphalie. Alors ça, c'est une condition que moi, j'ai découvert en faisant des recherches. Personne ne m'a dit plagiocéphalie, personne ne m'a dit que le risque, c'était le port du casque. Ça, c'est moi qui ai fait mes recherches toute seule sur Internet, en fait.
Oui, ils t'ont jamais proposé de réelles solutions. Ils t'ont juste dit, bro, ça va passer, vous inquiétez pas, vous êtes en train de overthinking, quoi.
Ouais, et puis... qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Pourquoi c'est important de lui changer la tête à droite à gauche? Pourquoi? Quelles pourraient être les conséquences? Et si elle n'y arrive pas à bouger sa tête, pourquoi? Enfin, donc on en arrive là et donc on a notre première séance avec cet ostéopathe qui nous dit qu'il arrive quand même à faire débloquer pas mal de choses. Donc il a espoir. Et dès notre retour aux États-Unis, on prend tout de suite rendez-vous avec les meilleurs spécialistes. Et on commence un peu tout ce process pour entreprendre la plagiocéphalie d'Emma.
Tu rentres et tu as directement un rendez-vous chez le chirurgien crânien pour enfants.
Rendez-vous chez le chirurgien. Je ne sais pas quel terme. Moi non plus, mais quelqu'un de très bien qui nous écoute. Je me sens vraiment bien reçue et entendue, en fait, parce que... Moi, j'avais quand même beaucoup de frustration à ce moment-là. J'arrive très énervée au rendez-vous. Je tape un peu du poing sur la table parce que je dis, on se fout de ma gueule. J'ai des rendez-vous tous les mois pour qu'on lui prenne sa température, qu'on la pèse et qu'on la mesure. Maintenant, ma fille, elle est dans cette situation. Où sont les professionnels? Enfin, j'étais vraiment très énervée. J'étais à ce stade, j'étais...
Puis là, on était... elle avait quoi? Elle avait 5 mois et demi, 6 mois? C'est ça?
6 mois, ouais. Donc, il était tard.
Oui, donc, tu as déjà 6 mois, alors qu'il y avait 6 mois que tu leur dis ça n'avance pas.
Ouais. Donc, très énervée contre eux, contre moi, contre tout le monde. Enfin, c'était un peu désagréable. Mais elle me dit, écoutez, moi, je recommande le port du casque pour traiter la plagiocéphalie. Enfin, en tout cas, pas pour la traiter, mais pour...
Diminuer
les impacts de la plagiocéphalie. 30% de mes patients. Oui. Et dans le cas d'Emma, je le recommanderais parce qu'en fait, son front, déjà, il y a un côté de son front qui commence à être plus avancé que l'autre. Et donc, je ne veux pas, vu que c'est une petite fille, quand elle grandira, si elle veut s'attacher les cheveux, qu'on voit une bosse sur le front. Elle s'inquiète pas pour l'arrière de la tête d'Emma parce qu'elle se dit, elle aura des cheveux, ça se verra pas, vous inquiétez pas.
Donc, tu prends rendez-vous dans un centre orthopédique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les mesures de la tête d'Emma?
Ouais, ils prennent les mesures. Non, mais c'est très frustrant parce que le premier rendez-vous, ils prennent les mesures pour eux aussi valider le fait que le port du casque est nécessaire.
Est nécessaire.
Ouais. Alors qu'on l'a déjà fait valider avant par l'assurance. Donc, on y va une première fois pour ça.
Oui, parce qu'ils ont eu le go en amont de l'assurance et rien que d'avoir le go de l'assurance, tu as déjà perdu 2 semaines, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Et donc après, on prend les mesures et après ils envoient les mesures pour fabriquer le casque. Donc c'est fait au laser, hein. C'est quelque chose qui est assez précis parce que ça se modèle
D'accord.
vraiment au crâne du bébé. Et voilà, donc après on retourne au premier rendez-vous pour lui mettre le casque sur la tête. Et à partir de ce moment-là, il faut revenir toutes les 2 semaines parce que bah un enfant de cet âge grandit très
Oui.
rapidement et donc il faut s'assurer que le casque est ajusté à chaque rendez-vous pour pas que ça crée une gêne en fait additionnelle.
Oui.
C'est gênant quand même, mais après, tous les bébés réagissent différemment au port du casque. Je sais qu'il y a des enfants qui,
Oui, c'est ce que j'allais te
ouais.
demander. Comment Emma, du coup, elle a vécu le port de son casque et combien de temps elle l'a porté?
Pas très bien, je dirais. En plus, il faisait chaud. C'était encore l'été, ouais. Moi, j'étais aussi ambivalente sur le port du casque. Donc, peut-être que c'est quelque chose qu'elle arrive à ressentir aussi, mais on sentait que ça la gênait, ça la grattait. Et puis au bout d'un certain moment, en fait, ça appuyait tellement sur le dos de sa tête que ça fait tomber une petite plaque de cheveux. Enfin, tu sais, elle était toute irritée, quoi. Elle était toute rouge derrière. Donc,
Peau, ouais.
moi, je le mettais pas 23 heures par jour parce que c'était, voilà, je sentais qu'il y avait, enfin, il fallait que ça cicatrise. Enfin, il y avait plein de choses qui
Oui.
faisaient que on pouvait pas lui mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on a fait vraiment au maximum et elle l'a porté, je crois, 2 mois et demi en tout, quelque chose comme ça. Donc c'était
D'accord.
pas long.
Tu avais un progrès, tu as vu que le port du casque était quand même utile ou pas nécessairement?
Je pourrais pas franchement le dire parce que les études expliquent que avec port du casque ou sans, les résultats sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que
Ok.
les enfants grandissent et donc le crâne peut reprendre une forme un peu plus
Arrondi, ouais.
arrondie, ouais. Après, je pense que ça a aidé vraiment sur le côté, le front de son, voilà, sur le front, parce
D'accord.
qu'effectivement, elle a plus cette bosse sur le front. Donc, il y a eu une pression qui s'est opérée à ce niveau-là, qui a fait que voilà, donc le crâne a pu s'arrondir plus à l'arrière et moins vers l'avant. Je pense qu'on avait très envie de voir que ça s'arrange aussi. Donc,
Oui. Est-ce que tu as... Je sais que tu as eu une mauvaise expérience du coup avec cet ostéo en France. Est-ce que tu sais s'il y a des ostéos qui sont aux États-Unis pour gérer la plagiocéphalie?
Ouais. Donc, quand j'étais encore en France, en fait, les 2 rendez-vous que je préparais pour le retour aux États-Unis, c'était ce rendez-vous avec le neurosurgeon. Qui était très bien et un ostéopathe spécialisé pour les enfants et les conditions de plagiocéphalie qui expliquait vraiment très bien les choses avec qui on a pris
D'accord.
rendez-vous toutes les semaines en parallèle du port du casque. Donc on faisait ça aussi en appui en fait pour soutenir
Le port du casque, oui.
le port du casque ouais.
Ok,
Et
oui,
on
tu t'es dit
continue jusqu'à maintenant.
autant pousser toutes mes options pour améliorer le
Ah
crâne
bah
de ma
oui.
fille, oui.
Non,
Ouais.
bah, je suis allée à 300%, là. Je me suis dit, voilà, je fais tout ce que je peux. Et puis j'étais satisfaite par cette personne, cette ostéopathe. Je trouvais qu'elle était vraiment super. Je lui faisais confiance et elle expliquait très bien les choses. Et je sentais qu'elle était confiante aussi. Ça me donnait
D'accord.
envie
Oui,
d'avancer
elle t'a
avec elle.
rassurée, elle t'a pas dit c'est le pire cas que j'ai vu de ma vie
Non, mais voilà, exactement. Des gens qui accueillaient les parents assez humainement.
Ouais. Et je vais me permettre de te poser la question, t'as le droit de la refuser ou pas, mais j'imagine que l'ostéo était pas ne faisait pas partie de ton assurance santé et que tout devait venir de ta poche.
Alors, ça dépend vraiment de ton assurance. Nous, on a une assurance à travers le boulot de Wail qui accepte, en fait, qui peut couvrir
Ah, in network and out of network.
Ouais, on a une assurance qui rembourse les rendez-vous. Donc, mais bon, il
D'accord.
faut quand même pouvoir payer le rendez-vous quand tu y vas et une séance d'ostéopathie. Sans compter la première prise de rendez-vous, où je crois que c'est un coût additionnel, mais c'est toutes les semaines 250 $. Donc,
C'est C'est incroyable comme le système américain joue sur l'anxiété des parents quand même. Parce que t'as deux types de médecine. T'as la médecine traditionnelle et t'as la médecine, une approche un petit peu plus holistique ou osseuse. Je ne sais pas trop comment on peut définir l'ostéopathie. Mais voilà, en France, t'as à ta disposition quand même ces deux types de médecine. Que tu crois en l'une ou en l'autre, c'est ton problème. Mais alors qu'ici, ils ne te laissent pas nécessairement le choix en fait de... Déjà, d'aller voir un médecin, si tu n'as pas d'assurance, c'est quand même compliqué. Mais si tu rajoutes à ça, aller dépenser au moins 200 $ par semaine pour essayer de traiter un mal-être qu'a ton enfant, c'est quand même... Je ne pense pas que ce soit à la portée de tout le monde de pouvoir dépenser 250 $ par semaine pour ton enfant. Et tu te dis, c'est quand même mon enfant.
Totalement, ouais. Et moi, quand j'ai parlé d'aller voir un ostéopathe, à mon pédiatre et aussi à cette neurosurgeon, les deux m'ont dit pourquoi pas, mais bon, voilà, c'est un peu le retour que j'ai eu, genre pourquoi pas, ça peut peut-être pas faire de mal,
ouais, ils
mais
des réserves
pas du tout, on m'a encouragé dans cette démarche, complètement. On m'a parlé plus de physical therapist que de
d'ostéopathie. Donc de la kinésithérapie, en fait. Aujourd'hui, Emma, comment, il n'y a pas de, entre guillemets, de séquelles par rapport à sa plagiocéphalie?
Alors, une chose qu'on m'a toujours dit aussi par rapport à la plagiocéphalie, c'est que c'était purement esthétique, que c'était un problème vraiment esthétique. Oui. Je comprends aujourd'hui que c'est pas forcément le cas. Par exemple, aujourd'hui, elle a 15 mois, j'ai remarqué récemment qu'elle rebasculait la tête un peu d'un côté plus que de l'autre. Donc nous, on n'a pas arrêté les rendez-vous chez l'ostéopathe, mais on les a beaucoup plus espacés. Donc maintenant, ça coûte une fois toutes les 6 semaines. Sauf que là, bon, on sait qu'on est dans une période un peu particulière, donc on n'a pas pu voir l'ostéopathe pendant plus longtemps que ça. Mais j'ai voulu reprendre rendez-vous récemment pour faire un point. Et effectivement, c'est encore une condition qu'il faut continuer à traiter parce que l'ostéopathe au dernier rendez-vous a dit « Ah oui, effectivement, ses cervicales sont un peu coincées, donc il faut... ça l'encourage pas à tourner la tête plus de l'autre côté. » Donc voilà, donc c'est un travail qui perdure en fait. Mais
elle est quand même une petite fille joyeuse.
Ah oui,
et
à tous ces niveaux-là, vraiment.
En bonne santé.
Très bonne santé. Voilà. Ah oui, non, super. Elle arrive à tout faire pour un bébé de son âge. Enfin, au niveau du développement de l'enfant, elle est vraiment en plein dans le mille. Mais moi, je le remarque avec mon œil de maman. Petit bébé Titi, maintenant, très, très joyeuse, très active. Qui nous rend extrêmement heureux.
Quel conseil t'aurais à donner pour des parents qui se rendent compte que la tête de leur enfant ne s'améliore pas et que visiblement le pédiatre n'a pas l'air de s'affoler? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces parents?
De ne pas atténuer la petite voix à l'intérieur de vous qui disent il faut peut-être faire quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et voilà, si on sent que le corps médical en face n'est pas réceptif au message que vous voulez faire passer, il faut aller consulter ailleurs. Il faut essayer de parler au plus de monde possible. Et voilà, parler autour de vous et vraiment aller chercher des informations aussi si on vous les apporte pas. C'est un peu dommage de pas pouvoir faire à 100% confiance aux professionnels, mais je pense que voilà, tout le monde fait comme ils peuvent, mais s'écouter et puis parler avec son conjoint aussi. Je pense que c'est important de pouvoir parler de ça librement d'essayer de faire le maximum.
Écoute, je te remercie en tout cas de ton témoignage de jeune maman. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'on te souhaite un deuxième bébé
deuxième bébé, ouais, bah, moi j'en rêve. Hein, j'en rêve et en même temps, je veux profiter à fond de ma petite fille. Donc, je ne suis pas pressée. Oui. Mais oui, moi j'aimerais bien un deuxième bébé, peut-être un troisième. À voir. On vient d'acheter un appartement. Donc,
Oh, félicitations.
On vient juste d'acheter un appartement qu'on pour lequel on a eu un gros coup de cœur. Je sais pas, un point de déménagement, j'imagine. Et puis, ça sera déjà bien.
Bah oui, pas trop stress. Ouais. Et puis, tu me dis si tu as besoin de demain.
Ça va. C'est gentil.
Merci en tout cas, Jen, d'avoir voulu témoigner sur ce podcast. Et j'espère que ça va pouvoir aider des parents qui se posent des questions, en tout cas, sur la plagio. Et merci beaucoup vraiment pour tes explications et pour le process à potentiellement suivre aux États-Unis.
Ben merci à toi, merci beaucoup Cindy, et puis longue vie à Expat Family.
merci beaucoup en tout cas, vraiment. Ouais. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao !